Radio Kapi.
La grande actualité ce lundi matin, c'est le report de 25 jours par la CENI de la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement dans la première ère et le début ce 25 janvier de ces mêmes opérations dans la deuxième ère. Vous suivrez aussi l'évaluation de ces opérations par les missions d'observation. À cause des conflits armés dans plusieurs villages en Ituri, environ 80 écoles ont été détruites, d'autres carrément incendiées par des inciviques armés s'affirmant dans des milices. Principale raison d'abandon scolaire, souligne un rapport de Ocha dans ce journal. Jean-Serge Loumou, directeur de cabinet au commissariat des affaires sociales au sein du gouvernement provincial du Lualaba, va intervenir en fin de ce journal. Il est notre invité, il revient sur les efforts en cours pour sortir un maximum d'enfants dans les zones minières. Merci de démarrer votre semaine avec Radio Okapi pour en apprendre sur l'actualité congolaise, sous peu d'autres contours de l'information. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, sachez que le rendez-vous de Doha au Qatar ce lundi 23 janvier entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame a été annulé. Selon notre consoeur Radio France Internationale qui cite la présidence congolaise, le président de la RDC a tout simplement refusé de se rendre à Doha alors qu'une délégation rwandaise est déjà sur place. Autre information, l'administratrice du territoire de Bassankoussou, province de l'Équateur, confirme qu'il y a eu plus de 100 personnes qui ont péri dans le naufrage du 18 janvier dernier à Likwelo. Elle dit détenir ces chiffres de ses services. Vous suivrez Madame Odile Mbella dans notre édition des 12 heures, heure de Kinshasa. Le commissaire fluvial de Mbandaka, que vous avez certainement suivi hier dimanche sur nos antennes, a quant à lui mis en doute ce chiffre. Signalons que le gouvernement provincial de l'Équateur a dépêché samedi une mission sur les lieux du drame. Son rapport est très attendu. Comme dit dans le sommaire, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs est prolongée de 25 jours allant du 24 janvier au 17 février 2023 dans l'ère opérationnelle 1. La CENI qui annonce cette décision part du constat selon lequel un nombre important de la population congolaise ne s'est pas encore fait enrôler jusqu'ici. Dans l'ère opérationnelle 2 qui comprend 9 provinces ainsi que l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, l'enrôlement débute ce mercredi 25 janvier pour se clôturer le 23 février 2023. Ce report, il faut le dire, était réclamé par la quasi-totalité des missions d'observation électorale. Ces dernières avancent en effet un certain nombre de raisons qui justifient cette rallonge. La mission d'observation électorale SENCO-SCC, par exemple, dit avoir noté plusieurs dysfonctionnements dans ses opérations. Pour sa part, le cadre de concertation de la société civile pour l'observation électorale évoque l'absence de la phase pilote et des ratés dans le démarrage. Le panel des experts de la société civile met quant à lui l'accent sur le coût de ces opérations qu'il qualifie d'exorbitant par rapport aux cycles antérieurs. Jean-Désiré Kanyama nous parle d'autres contraintes évoquées par ces organisations qui opèrent dans le secteur des élections.
C'est au regard des contraintes liées au lancement de ces opérations. Paul Kabea, membre du CDCI.
Le lancement de l'opération devait procéder par une phase pilote qui a connu aussi des ratés au début et qui a été mal prise en charge.
Faute de cadre de concertation formelle avec la CENI, le panel des experts de la société civile s'inscrit plutôt dans la surveillance électorale. Le président de ce panel évoque plusieurs craintes. Diedoné Mouchagaloussa.
Jusqu'à ce jour, la CENI n'est pas en mesure de donner les chiffres consolidés en termes de ceux qui sont déjà enrôlés, mais également il est important de signaler qu'il y a risque de bradage de la nationalité congolaise.
Et à propos de témoins, le panel constate qu'ils sont non certifiés.
Il n'y a aucune certification, aucune approbation, aucune implication des chefs de groupement, et donc n'importe qui peut obtenir la carte d'électeur.
Quid du coût réel jugé d'exorbitant?
Une différence de 33 millions de dollars contre le budget qui a été consommé le cycle passé de 64 millions, mais pour ce cycle, on a 97 millions.
La CENI est donc tenue d'améliorer ce processus.
Toutes les parties prenantes sont dans l'obligation de se souder pour que le processus réussisse.
En Ituri, plus de 28 000 enfants en âge scolaire sont affectés par l'activisme des groupes armés dans les territoires des Djougou et Maragui. Ce chiffre est contenu dans le dernier rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires au Tchad dont Radio Okapi a obtenu une copie. Selon ce document, suite aux conflits armés dans plusieurs villages, environ 80 écoles ont été soit détruites ou incendiées par des hommes armés. ce qui a poussé des milliers d'écoliers à abandonner les études. Martial Kizabiamungu.
Dans les territoires des Mayagu, d'après les rapports de Ocha, la zone la plus touchée par les attaques de miliciens de la Côte d'Eko et de Zaïre comprend les villages de Kambala, Aungba et Logo. Du 1er au 8 janvier, au moins 23 000 personnes ont été obligées de fuir leurs villages suite aux attaques des miliciens pour se diriger vers Mayagu Centre et dans les territoires voisins d'Arou. Parmi elles, des enfants en âge scolaire. Les bureaux de la coordination des affaires humanitaires Ocha note que ces écoliers vivent dans des conditions très déplorables et n'ont pas accès à la scolarité dans leurs milliers d'accueil. Même situation dans les territoires des Djougou où des milliers d'écoliers ont fui les récentes attaques du groupe armé Kodeko dans les villages de Drodro pour se diriger dans les sites des personnes déplacées de Ro dans la chefferie de Baïma Nord sans aucune assistance. Plusieurs rapports des humanitaires indiquent que la seule école qui se trouve dans ces sites n'a pas la capacité d'accueillir tous ces enfants faute des salles de classe. Par ailleurs, les rapports de Ocha indiquent que les contraintes sécuritaires empêchent plusieurs humanitaires à se rendre dans les zones d'accueil des personnes déplacées. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Toujours à Ituri, environ 8700 déplacés de Walendu Tatsi dans le territoire des Djougou ont urgemment besoin de l'assistance humanitaire. Nombreux parmi eux dans cette province de l'Ituri passent la nuit à la belle étoile faute d'abri. Selon le président de la société civile de cette entité, au moins 10 villages sont affectés par cette insécurité qui perdure. Il lance ainsi un appel au gouvernement et aux humanitaires pour apporter de l'aide à ces personnes victimes des violences des groupes armés actifs dans la région. Jean-Claude Lokidile.
Désiré Magunga, président de l'association civile de Tatsi, indique que c'est entre le 10 décembre 2022 et le 11 janvier 2023 que les habitants de plusieurs villages ont été victimes de violences commises par la milice Zaïre. Les entités affectées sont notamment Dada, Minju, Datulé, Diapi, Kalanda ou encore Langbe, ce qui a contraint les populations dont mes 10 villages à quitter cette zone pour trouver refuge à Talaka, Baou, Ndoumbe, Pénicentre, Lidio, ainsi que vers d'autres milieux environnants. D'après cet acteur de la société civile, ces personnes mènent une vie de galère, pas de nourriture, ni médicaments, pas assez d'eau potable et difficile pour se déplacer, d'accéder à leur champ qui, dit-il, est toujours sous la menace des éléments de la milice Zaïre. Désiré Magunga dit que des enfants sont morts à la maternité à cause des mauvaises conditions de prise en charge des femmes enceintes.
Il y avait les kirchons des miliciens Zaïre qui tentent parfois des embuscades aux paisibles populations. Ces personnes vivent dans une condition déplorable. Il n'y a même pas assistance humaine ni les médicaments. Déjà, on a enregistré les cas des décès. Les médecins ont fait ce qu'ils devraient faire, mais les enfants sont morts.
Parmi les autres conséquences de cette insécurité dans la région, les écoles ne fonctionnent pas, enseignants et élèves sont en fuite. Conclut la société civile de Tati, Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Capi.
La population civile vit dans l'insécurité et la peur malgré l'instauration de l'état de siège depuis plus de 20 mois. C'est ce qu'affirme Dr Denis Mukwege dans une déclaration rendue publique en début de week-end à Bukavu en rapport avec la découverte de 4 nouvelles fosses communes en Ituri récemment. Le prix Nobel de la paix appelle les autorités congolaises à diligenter une enquête pour faire la lumière sur ce carnage. Mais il interpelle aussi les Nations Unies. L'essentiel de cette déclaration, c'est avec vous, Rachel Tiesembangu.
La découverte récente des 4 fosses communes où ont été enterrées près de 50 personnes dans le territoire de Djougou en deuil à nouveau la nation congolaise. Les corps des civils retrouvés alourdissent le bilan des violences des groupes armés dans la région, alerte le docteur Denis Mukwege. S'il invite les autorités congolaises qui, je le cite, ont le devoir de protéger la population, fin de citation, à diligenter une enquête pour faire la lumière sur ce carnage, établir les responsabilités et traduire les auteurs en justice, le prix Nobel de la paix interpelle aussi les Nations Unies. Nous exhortons également les Nations Unies à renforcer significativement l'équipe d'experts médico-légaux mandatée par le Conseil de droit de l'homme pour contribuer à exhumer les fosses communes les plus récentes, écrit-il. En outre, il appelle l'État congolais à inviter officiellement la Commission internationale sur les personnes disparues basée à Sarajevo a effectué une mission en RDC pour bénéficier de son assistance technique et soutenir la mise en place d'un bureau congolais d'expertise médico-légale. Ces démarches constituent pour le prix Nobel de la paix des prérequis indispensables à la genèse de la justice transitionnelle en RDC et au respect des droits des familles et des personnes disparues à obtenir la vérité, la justice et des réparations. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Dans le Nord Kivu, la situation humanitaire des milliers de déplacés de Rutshuru vivant en territoire de Nyiragongo est loin de trouver une solution. L'aide alimentaire consistante se fait de plus en plus rare. Les déplacés affirment avoir atteint la limite de leur patience. Ils disent aller mourir dans leurs entités occupées. La situation est presque générale dans tous les sites. Dans le site de Bouvira, qui héberge près de 2500 familles, la dernière assistance du gouvernement remonte en octobre dernier, alors que plusieurs autres ménages continuent à arriver. Si Famagour a visité ce site, voici son reportage.
On n'en peut plus. Je pense que nous n'allons plus rester ici longtemps. Le premier ennemi, c'est la famine. Que le gouvernement nous ramène chez nous. Je préfère mourir chez moi que de souffrir de la sorte. C'est en ces termes qu'un père de famille a lâché sa colère au regard des conditions de vie que mènent tous les déplacés dans les territoires de Nyiragongo. Ntezimana Jean-Baptiste. Ça fait 4 mois que le gouvernement nous a donné la nourriture. Et depuis lors, plus rien. Nous enterrons des enfants à cause de la famine. Les femmes enceintes manquent de quoi mettre sous la dent et meurent. Beaucoup de gens vont chercher à manger dans la brousse. Je ne sais pas que nous allons rester encore ici. Nous avons déjà écrit, si on ne veut pas nous aider, qu'on nous ramène chez nous. Bien que ce site de Bouvira soit un peu plus mieux aménagé par rapport à d'autres, grâce aux efforts du gouvernement à travers une ONG locale à Crure. Cette organisation a érigé une 20aine de hangars pour protéger les déplacés des intempéries et a mis en place tout un dispositif d'hygiène et approvisionnement en eau potable. Goma, Sifamagourou, Radio Okapi.
Sur le terrain, un calme relatif a été observé hier dimanche dans la cité de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, après une panique enregistrée dans la nuit de samedi à dimanche. Selon des sources locales, des échanges de tirs ont opposé momentanément samedi vers 23h les éléments du M23 au FDLR aux alentours de la cité de Kiwanja. La journée d'hier dimanche, la situation est restée relativement calme dans les zones des affrontements, notamment en groupement Tongo et Bishusha chez Ferry de Buito. Dans la partie centrale du pays, le plan de relance de l'AMIBA a été validé il y a bientôt 2 semaines. C'était à l'issue de l'atelier de restitution et de validation du dit plan. Évalué à plus de 450 millions de dollars, ce plan sera exécuté sur une durée de 5 ans. Mais avant la mise en œuvre de ce plan, quel est l'état des lieux de la société minière de Bakwanga à ce jour? Quelles sont les attentes de la population? Où en est-on avec d'autres tentatives initiées pour relancer cette entreprise minière? Radio Okapi vous propose à cet effet une série de reportages sur la minière de Bakwanga, Miba, détenue à 80% par l'État congolais et à 20% par Sibeka, la société de droit belge. Dans cette première livraison, Esther Ndalafina nous rafraîchit la mémoire sur l'historique de l'entreprise.
La société minière de Bakwanga, Miba, est l'une des grandes sociétés contributrices à l'économie nationale. Depuis sa création en 1961 jusqu'en 2000, la Miba produisait en moyenne plus de 6 millions de carats par an. Vers les années 1980, elle faisait vivre 40 000 personnes, dont les employés et leurs familles. En 2008, la Miba a été touchée par la crise financière, caractérisée par la chute du cours de matières précieuses. L'entreprise tombe dans le déclin suite à la suspension momentanée de la production et l'impayement de son personnel. Pourtant, la Miba compte près de 13 à 14 massifs kimberlite sur lesquels les sondages de teneur et de structure ont été effectués par Geostat. La chute de la production a engendré la non-prise en charge sociale, l'impayement des salaires de tout son personnel, entre autres ceux évoluant dans le secteur médical, éducatif, de l'énergie électrique. La Miba voit l'entreprise plongée dans le gouffre. Aujourd'hui, les agents et travailleurs de la Miba comptent plus de 100 mois d'impayement. Le salaire a été rabattu à 2 reprises, mais la société n'a pas su relever les défis. La Miba disposait de 3 grandes usines de traitement de diamants. Celle de Dicelé est actuellement opérationnelle, mais en état de délabrement très avancé. Cet outil de production permet actuellement à la Miba de produire en moyenne 50 carats par jour.
Actualité internationale.
Le Burkina Faso a demandé cette semaine le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'un mois, à en croire l'agence d'information burkinabé et une source proche du gouvernement. Une information relayée samedi par la télévision nationale sans plus de détails. Le gouvernement burkinabé a dénoncé mercredi dernier l'accord qui régit depuis 2018 la présence des forces armées françaises sur son territoire, a indiqué l'AIB, qui précise que le délai pour ce départ est d'un mois. Environ 400 soldats des forces spéciales françaises sont actuellement basés à Cambouassin, au nord de la capitale Ouagadougou. Paris n'a pas réagi jusque-là à cette information. À Dar es Salaam, des rats sont entraînés et utilisés à renifler des échantillons des crachats humains en laboratoire. Ils parviennent à identifier la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. Ce projet dénommé Apopo d'une ONG belge a été initié en 2008. Aujourd'hui, les animaux sont utilisés dans 21 centres médicaux de la capitale Tanzanie. Selon un scientifique responsable du programme TBA Apopo, la capacité de ces rongeurs à détecter les agents pathogènes est élevée en raison de leur impressionnante sensibilité à l'odorat.
L'invité.
L'invité de ce journal s'appelle Jean-Serge Loumou. Il est directeur du cabinet au commissariat des affaires sociales du gouvernement provincial du Lualaba. Il parle de la problématique de la présence des enfants dans les mines de cette province et des efforts qui sont fournis pour qu'ils quittent ces milieux et rejoignent les écoles ou les centres d'encadrement. Jean-Serge Loumou s'entretient avec Jean Gandou.
Jean-Serge, bonjour.
Bonjour.
On parle de plus en plus de la présence des enfants dans certains sites miniers dans la province du Lualaba, notamment à Kolwezi. Qu'est-ce qui peut donc justifier cet état des choses?
L'observation sur le terrain démontre que c'est un phénomène qui est vraiment en diminution. Mais on sait aussi que c'est un phénomène qui parfois prend des ampleurs. Lorsqu'on est dans des périodes de vacances pour les enfants, on a l'impression que les enfants, à cause de l'oisiveté, se dirigent un peu plus vers les sites miniers. La situation du Lualaba est une situation particulière. Ce ne sont pas les enfants qui vont vers les mines, mais c'est souvent les mines qui viennent vers les enfants. Du coup, l'emplacement dans la plupart et le développement des sites miniers qui s'approchent de plus en plus des ménages font que les enfants sont à proximité et certains sites miniers sont pratiquement les lieux où les enfants étaient habitués à jouer. Dans certains cas, la pauvreté des parents attire les enfants vers les mines. Il y a d'autres enfants qui accompagnent carrément leurs parents dans les sites miniers pour les travaux divers. Il faut aussi souligner que les enfants qui vont vers les mines n'y vont pas tous pour une activité directement d'exploitation et d'autres vont pour les activités connexes. Par exemple, les parents qui vont pour vendre de la nourriture dans des restaurants pour les travailleurs miniers artisanaux.
Quels sont les efforts qui sont fournis par le commissariat général aux affaires sociales pour tirer ces enfants de ces lieux?
Le premier axe d'intervention va dans le cadre de la sensibilisation vis-à-vis des enfants eux-mêmes, mais aussi des parents et des autres personnes qui sont dans les différentes communautés pour attirer leur attention sur le fait que les sites miniers ne sont pas les lieux pour les enfants. Attirer leur attention sur la dangerosité des sites miniers et même du travail associé aux mines. Le deuxième axe d'intervention va dans le sens le renforcement de capacités économiques des ménages en leur proposant des mécanismes et des sources alternatives de revenus pour leur permettre de prendre en charge correctement leurs enfants, la scolarité de ceux-ci, les soins médicaux et autres besoins des enfants et de maintenir ces enfants loin des sites miniers. En renforçant les capacités économiques des ménages, nous donnons aux parents la possibilité de penser non seulement à l'après-mine, mais déjà maintenant, peut-être que c'est mieux d'investir ailleurs plutôt que de passer le temps dans des sites miniers où le travail n'est pas toujours facile, où il y a beaucoup de risques.
Mais concrètement, qu'est-ce qui a déjà été fait en faveur de ces parents?
Nous venons de clôturer le cycle d'épargne avec 14 groupes d'épargne qui sont du côté des Tulizembe à Kapata, composé de 350 personnes. Chaque personne représente un ménage, c'est-à-dire 350 ménages. Pendant 11 mois, ont participé dans un projet de groupe d'épargne qui a mobilisé 60 000 dollars. Dans le cheminement, selon la stratégie de groupe d'épargne, les participants avaient la possibilité d'emprunter pour résoudre des problèmes, notamment de scolarité, de soins médicaux, ou financer leurs petites initiatives génératrices de revenus, avant qu'on clôture le cycle en redistribuant les 60 000 dollars aux 350 bénéficiaires. Nous avons clôturé le cycle de formation des enfants qui étaient associés aux mines, qui ont appris différents métiers, notamment la coupe et couture, l'agistage, la menuiserie, la mécanique et autres. Et sur les 150 enfants qui ont participé à cette expérience, il y a eu 77 filles et tous ces enfants ont bénéficié d'un kit complet, chacun selon sa filière, d'équipement pour pouvoir démarrer son activité dans les meilleures conditions avec un appui financier. Je n'ai pas cité ici ces méga projets de Pabea Cobalt, qui est un projet qui vise à donner une source alternative, mais avec une particularité, la construction d'un centre, l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agro-business, où on va initier les parents et les jeunes adultes qui sont en âge d'apprendre là-bas, non seulement à faire l'agriculture, mais ils seront équipés et appuyés avec les ressources nécessaires pour commencer leur propre business dans ce domaine-là. Et le programme prévoit aussi la scolarisation des enfants avec le programme des cantines scolaires.
Jean-Serge Lemot, je vous remercie.
Et je vous en prie.
Vous venez de suivre Jean-Serge Lumo, directeur des cabinets au commissariat des affaires sociales au sein du gouvernement provincial du Lualaba. Et c'est avec cette interview portant sur la problématique de la présence des enfants dans les mines dans le Lualaba que nous clôturons notre série commencée la semaine dernière qui a fait un focus sur cette province issue de l'ancien Katanga. Nous disons ainsi grand merci à Jean Gandou qui nous a produit toute cette série de reportages sur le Lualaba. Fidèles auditeurs, à vous aussi nous disons merci pour avoir suivi ce journal qui vous a été préparé par Pelekip Pelamondo et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté au nom de toute cette équipe. Je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.